Chers clients, bienvenue à ce live à nouveau après un mois de pause du Super Club Vidéo Gore. Je suis votre commis Steph et je serai en solo cette semaine. En fait, pour la première fois habituellement, soit Steve était avec moi ou on avait un invité ou quelqu'un qui se joignait là, comme Vic le souffleur de cassette pour parler de toutes sortes de trucs. Mais cette semaine, ça va être un épisode où Steph s'écoute parler. Hein, comme les gens qui connaissent mon ancien podcast Histoire de tronche se souviendront que mon ancien co-animateur Ben m'avait déjà demandé « Steph, est-ce que tu veux un miroir pour te regarder pendant que tu t'écoutes parler? » Et c'est une des insultes les plus mémorables qu'il m'a faites, puis je m'en souviens encore. Puis bonjour à tout le monde qui est là. Bonjour Aza, Donald, David, Joe. Merci d'être là. What's up les tronches d'horreur? On aime ça. Effectivement, on est des tronches d'horreur dans le meilleur sens. D'ailleurs, en parlant de tronches d'horreur, vous verrez derrière moi, juste ici, sur mon arcade, il y a un jeu qui s'appelle The Haunting Starring Poltergeist, qui est un jeu de Sega Genesis en perspective isométrique. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là, mais ça vaut la peine d'être connu. C'est un jeu sur Sega Genesis où est-ce que vous jouez Poltergeist puis vous êtes dans une maison. Puis vous devez hanter les habitants de la maison puis les faire quitter. C'est vraiment cool. En parlant de tronche d'horreur, bien, vous n'avez pas plus tronche d'horreur que cette référence-là. Joe qui nous dit en mode Steph Han solo. Hey boy, ça, c'est un deep cut, une référence à Histoire de tronche, mon ancien podcast. Effectivement, en mode Steph Han solo, ça me tentait de faire ça. Il est arrivé quelque chose de très cool. Dimanche dernier, j'étais au Costco. Avec mon épouse Caroline, et puis quelqu'un a crié dans la rangée des ben pas crié, mais a dit à voix haute dans la rangée des produits congelés du Costco, « Hey, Super Club Vidéo Gore! » Puis je me suis tourné, puis c'est quelqu'un qui regarde le show, qui est venu se présenter, super smart, son nom c'est Sting, dans les commentaires, qui me disait « Je pense pas que c'est le vrai Sting là, de WCW, mais peut-être en même temps, je ne sais pas, tu sais, peut-être qu'il a changé physiquement depuis le temps. » Mais le gars m'a reconnu au Costco, puis ça, c'est cool, hein, maudit. Puis il a dit « Hey, je m'ennuie vraiment des lives. » Salut, IntuiFilm. « Je m'ennuie vraiment des lives des dimanches. » Puis c'était comme mon petit rendez-vous matinal du dimanche, puis je trouvais ça bien cool. Puis il m'a demandé quand est-ce que j'allais recommencer. Puis ça m'a donné le goût de recommencer. De toute façon, j'avais envie de recommencer, mais pour ceux qui ne le savent pas, juste, je vais répondre à Aza qui dit « Je suis en Belgique. Il est quelle heure chez vous? » Il est midi. Il est midi ici au Québec, Aza. Donc, c'est ça, je voulais recommencer, mais pour ceux qui le savent, il y a quelques personnes qui le savent parce que j'en ai parlé sans en parler directement. Là. Mais j'ai changé d'emploi après presque 9 ans au même endroit. J'ai donné ma démission au mois de janvier. J'ai donné 2 mois de préavis à mon ancien employeur. Puis j'ai commencé mon nouvel emploi le 2 avril 2024. Donc, puis en plus, je suis aux études le soir par-dessus ça. Donc, j'ai un nouveau métier à apprendre, plus les études que je veux terminer au plus vite. Puis le Super Club Vidéo Gore, évidemment, là, qui est un projet de passion là, que Steve et moi, on anime, on s'amuse au bout. Le temps disponible pour faire les lives les dimanches, puis l'énergie aussi, t'sais, je n'avais plus. Là. J'avais de l'énergie pour faire mes trucs, mais j'avais le cerveau vraiment en plein. Puis, c'était pas le meilleur temps pour moi de faire les lives, puis la préparation, puis tout ça. Fait que je me suis donné une petite pause. Mais je me rends compte en même temps que les lives, ça fonctionne vraiment bien avec le Super Club Vidéo Gore. On a beaucoup d'engagement. Puis, je trouve ça cool. T'sais, vraiment, c'est sûr, si j'étais seul, puis il y avait une personne dans le chat, ça serait awkward. Là. Tant qu'à ça, je vais aller à la salle de bain, puis... T'sais, je vais être dans le miroir puis je vais parler tout seul en buvant de Corona, là, tant qu'à être triste puis pathétique. Mais là, vous êtes là avec moi. Fait que c'est vraiment très cool. On a Horreur FM qui est là d'ailleurs, qui fait partie des meubles, Daniel. Je te salue. Qui dit Haunting Starring Poltergeist sur l'arcade. Bon choix. Oui, j'en parlais, je pense, juste avant que tu arrives tantôt. C'est excellent ce jeu-là. C'est bizarre à contrôler un peu, surtout si tu joues avec la manette originale du Sega Genesis, ou est-ce que les diagonales, je trouve, c'est vraiment pas l'idéal. On a Donald qui dit « Je regarde ta tronche avec ma fille, t'es sûr? » T'es sûr que tu veux la soumettre à ça, Donald? Écoute, elle est jeune encore, là. Elle n'a pas besoin de traumatisme tout de suite. Cheers quand même. Fait que, c'est ça, dans le fond, je sais pas, j'ai quelques trucs que j'ai envie de parler, mais j'ai pas de format là, rigide, proprement dit. J'avais juste envie de jaser avec vous, là, puis de reprendre le collier d'animateur. Entre autres, en fait, parce que là, tout le monde en parle de ce temps-là, je vais vous parler de Late Night with the Devil. Donc, pour les gens qui sont dans les commentaires, si vous voulez me donner votre avis là-dessus, moi, je l'ai regardé avec ma femme hier soir pour la première fois. Puis, salut à toi aussi, Stéphane. Puis, écoute, c'est un film là, qui est partout. Les gens en parlent beaucoup. C'est avec David Dasmalchian, puis qui joue le rôle de Jack Delroy, là, qui est un animateur de Late Night Show en 1977. Puis, c'est comme le rival numéro un du câble à Johnny Carson. Aza, là, qui dit dans les commentaires, je ne l'ai pas encore vu. Inquiétez-vous pas, je ne vais rien divulgâcher. Donc, il n'y aura aucun spoiler. Mais je veux quand même vous parler rapidement de mon appréciation là, du film comme tel. Premièrement, c'est dans le sweet spot de Steve et moi en termes de runtime. Là, c'est 93 minutes, c'est très cool pour ça. La plupart des films de ce temps-là, on dirait que tout dépasse 2 heures. T'sais, c'est comme nécessaire là, d'être 120 minutes et plus. Honnêtement, je ne sais pas si c'est moi qui ai moins de patience qu'avant, mais ça ne me tente plus de regarder des films de 2 heures, 2 heures et quart, 2 heures et demie. 3 heures même dans certains cas. D'ailleurs, j'ai parlé au dernier épisode du Super Club Vidéo Gore de Oppenheimer, qui est un film magnifique, là, qui est très beau, mais c'est long, c'est 3 heures de long dialogue, puis on dirait que j'étais à l'école puis j'étudiais là, un document historique. Salut Ray de Montréal, that's it, salut, bienvenue, et salut à toi Thierry, également. En fait, les commis, ça va être le commis, comme je disais d'entrée de jeu tantôt, parce que je suis solo cette semaine. Donc, pour terminer sur Late Night with the Devil, je dois dire par contre que David Dasmalchian transporte le film presque à lui seul. Ingrid Torelli, qui joue la jeune de 13 ans, qui s'appelle Lily dans le film, qui est la possédée qu'on voit dans la bande-annonce, excellente également. Ce que je pourrais dire par contre comme critique du film, premièrement, la fin. La fin, pour ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle, puis je vous demanderai de ne rien divulgâcher dans les commentaires non plus, mais la fin laisse vraiment à désirer, à mon avis. C'était abrupt, c'était brusque, puis ça avait l'air précipité un peu. Donc ça, c'est une chose que j'ai pas trop aimée, puis c'est pas épeurant. Je trouve qu'il y a aucune tension vraiment palpable, là, peut-être à 1 ou 2 scènes, puis ça dure pas très longtemps. Mais dans l'ensemble, c'est un excellent film. C'est vraiment original, puis ça fait du bien de voir des films qui prennent des risques, qui ne sont pas des reboots. Des années 70, tu sais, il y a beaucoup de throwback aux films d'horreur des années 80, mais il y a très peu de throwback aux films aux films d'horreur des années 70. Puis de l'époque des années 70, on ne voit pas ça beaucoup, puis ça, c'est très rafraîchissant, je trouve. Bonjour Steph, pour l'instant, t'écoutais parler seul, mais plaît, salut Alex. Tant mieux pour l'instant. Ça fait 9 minutes, peut-être que ça va être gazant, dans pas trop long. On a David Richard qui nous dit Oppenheimer du 70 mm pour des scènes de dialogue dans des salles blanches. T'as tout compris, David. Écoute, c'était pas un mauvais film. Hein? Je veux revenir sur Oppenheimer rapidement. Ben, premièrement, j'ai pas réussi à le finir. Okay? Toutes mes confessions là, ici, là. Je m'avoue là, au confessionnal devant vous tous, je n'ai pas réussi à finir Oppenheimer. Je me suis rendu à 2h30, puis je l'ai arrêté. Je n'étais plus capable. Il y avait beaucoup de personnages inutiles dans ce film-là, je trouve. J'imagine, tu sais, c'est une histoire vraie du Dr. Oppenheimer, mais c'était quand même... c'était long, c'était long. Asti, c'était long. Puis, à un moment donné, oui, c'est beau, là, la cinématographie est fantastique, puis les dialogues sont naturels, ainsi de suite. Mais fermez-la, donnez-moi un peu de divertissement. Là, si j'ai envie de regarder un documentaire sur Oppenheimer, mais je vais le faire, mais là, je veux regarder un film. Puis en même temps, bon, Christopher Nolan a vraiment sa signature. Là, c'est sûr qu'il fait souvent des films très longs, un brin compliqué à suivre si t'es pas 100% attentif. Fait que c'est peut-être moi le problème, là, mais bon. Fait que oui, c'est ça. Puis pour revenir et pour terminer sur Late Night with the Devil, je vous le recommande chaudement. C'est un film original, comme je disais, qui prend des risques puis qui essaye quelque chose de nouveau. Puis il y a plusieurs performances d'acteurs vraiment impressionnantes là-dedans, dont le personnage de Gus McConnelly, qui est son co-animateur. Gus est excellent. Vraiment, là, je dois dire. On a Ray qui nous dit « Le gros problème de Oppenheimer est la musique trop présente et trop forte. On croyait voir une bande-annonce de 3 heures. Le film se pose trop rarement. » 100% d'accord avec ça. Puis, je comprends pourquoi les gens aiment le film autant. C'est un grand film, Oppenheimer. Excusez-moi, je vais juste éteindre mes notifications, c'est fatiguant. Mais ça reste que c'était pas pour moi. Puis, comme je dis, c'est peut-être moi le problème et non le film. On a un commentaire ici d'Alex qui dit « Toujours pas vu, car j'ai vu celui de Paul Newman des années 70 et c'était déjà bien et ce n'est rien qu'un remake. » Est-ce qu'on parle ici de Late Night with the Devil? Parce que si c'est le cas, je ne savais pas que Paul Newman avait joué dans un film tel. Donc, c'est ça. C'est bien. C'est pas le film de l'année, mais il est sur toutes les lèvres présentement puis il y a beaucoup de gens qui regardent ça. En parlant de beaucoup de gens qui regardent quelque chose, est-ce que quelqu'un dans les commentaires ou tout le monde a regardé la série télé de Fallout? Parce que jusqu'à maintenant, la série télé de Fallout, moi, ce que j'ai vu du moins, c'est vraiment très bon. Amazon, ça fait 2 fois là, qu'ils frappent très, très fort. La première, du moins, pour moi, la première série qui me fait vraiment dire « OK, je dois être sur Amazon Prime maintenant », c'est The Boys. OK, donc The Boys, c'est pas mal ma série télé préférée là, des 5 dernières années facilement. C'est excellent. Homelander, Black Noir. T'sais, pour ceux qui connaissent The Boys, Black fucking Noir est tellement hot. C'est un rip-off, OK? Un rip-off, puis vraiment sans se gêner de Snake Eyes dans G.I. Joe. Mais il est tellement hot, c'est un personnage muet. Puis, évidemment, Homelander, c'est le bad guy que tout le monde adore détester. Il est juste vraiment excellent. Puis The Boys eux-mêmes aussi, c'est superbe. Le Carl Urban dans le rôle de Butcher, c'est juste fucking bon. Puis moi, je me disais que The Boys n'allait pas être topé sur Amazon Prime. Je me disais que ça allait pas être touché par autre chose parce qu'ils ont vraiment frappé un coup de circuit avec ça. Et est arrivée la série télé de Fallout. La série télé de Fallout, justement, on a quelqu'un qui nous dit Fallout, très bon. David qui nous dit présent pour Fallout, c'est excellent. J'ai recommencé le 4e et 76. Joe Nadeau qui nous dit Fallout frôle la perfection. Donc, si vous n'êtes pas convaincu encore, ben, les clients du Super Club Vidéo Gore, ils mettent leur étampe d'approbation là-dessus jusqu'à maintenant. Moi, j'ai regardé le premier épisode avec mon fils Xavier. Et ma blonde et ma femme Caroline. Puis les trois, on était vraiment impressionnés là, du premier épisode. J'ai pas continué, puis c'est une question de circonstances, là, tout simplement, mais c'est sûr qu'on va le finir ensemble. Puis so far, so good. La première chose que je dois dire, il y a énormément de fan service pour les gens qui aiment Fallout, qui ont joué à Fallout comme moi. Moi, le premier Fallout que j'ai joué, c'est Fallout 3 sur la Xbox 360. Suivi de Fallout 4. Moi, j'ai pas joué à New Vegas à ce moment-là, mais Fallout 3, j'avais trouvé ça débile. L'histoire était vraiment excellente. Fallout 4, j'ai pas aimé l'histoire. J'ai pas aimé les settlements non plus, mais le gameplay est vraiment bon, puis le sentiment d'exploration et sa grosse coche. Puis, quand on regarde la série télé de Fallout, ben, les hommages sont là. Les détails, au moindre détail, vraiment, c'est très bien représenté. La soundtrack, so far, so good, c'est excellent. On a une question ici de Ray Payman qui dit je ne joue pas aux jeux vidéo. Si je découvre l'univers de Fallout à travers la série, ça va. Absolument. Absolument, parce que l'exposition, en fait, au début du monde de Fallout est très simple à suivre. Puis pour ceux qui connaissent le synopsis, ben, vous savez c'est quoi. Puis pour ceux qui ne connaissent pas, on est dans les années 50, 60. Je ne me souviens pas exactement, mais bon, on voit clairement qu'on est à cette époque-là et il y a une attaque nucléaire. Donc, les bombes se mettent à exploser et les gens se cachent dans des shelters qui sont des genres de voûtes souterraines là, qui sont à l'épreuve de la radiation, des explosions, puis ainsi de suite. Puis, on est téléporté plusieurs centaines d'années dans le futur où est-ce que la société, en fait, vit exclusivement sous terre dans les voûtes et évidemment, ce qui arrive, c'est qu'on sort de la voûte. Donc, il y a un personnage qui sort de la voûte puis qui découvre le monde post-apocalyptique. Le premier épisode nous soumet à tout ça. Puis, c'est côté pacing, côté acting aussi. Écoute, j'ai rien à dire. Les décors sont débiles. On a David qui nous dit que les décors sont hallucinants. On se croit dans le jeu, c'est exactement ça. Puis là, tu sais, c'était drôle parce que mon fils Xavier n'a pas joué à Fallout, ou du moins, il a essayé, mais il n'avait pas embarqué tant que ça. Caro non plus. Mais moi, oui, moi, j'ai mis des centaines d'heures dans Fallout, puis j'étais là, telle affaire, hey! Puis là, tu sais, je faisais pause pour expliquer les références aux jeux vidéo que ces deux-là ne comprenaient pas. Fait qu'ils m'aiment, fait qu'ils ont fait semblant d'être aussi excités que moi, mais moi, en tant que fan de Fallout, je capotais. Là. Comme diraient les fans de Lutte, je marquais solide. Fait que so far, so good. Puis là, j'ai envie de jouer à Fallout 76. Vraiment beaucoup. Caro et moi, on joue... Ben là, ça fait un bout qu'on n'a pas touché à ça, mais on jouait à Seven Days to Die avant. Puis Seven Days to Die, c'est un jeu, mettons, pour le résumer, pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est comme Minecraft, mais avec des graphiques semi-réalistes dans un monde post-apocalyptique de zombies. Puis il faut que tu bâtisses ton shelter, puis il faut que tu fasses des missions, puis tu survives, tu tues des zombies, puis ainsi de suite. Puis Fallout 76, c'est du PVE, donc c'est du player versus environnement. Puis ça nous tente, vu que Caro a connu un peu plus le contexte maintenant, elle a le goût d'embarquer dans Fallout 76. Moi, je n'ai pas joué. Donc, s'il y a des gens dans les commentaires là, qui sont là dans le live présentement, si vous avez joué à Fallout 76, s'il vous plaît, convainquez-moi ou pas. Parce que je suis encore un peu on the fence. On dirait que je ne le sais pas. T'sais, on dirait que je ne sais pas si j'ai envie de m'embarquer là-dedans. Fait que Fallout, vraiment un gros succès jusqu'à maintenant. On a Laurent qui nous dit « La première saison est correcte. » Bon, tu vois, c'est le premier commentaire, je dis mitigé, correct. Ça veut dire que tu as aimé ça sans tomber en bas de ta chaise. Jusqu'à date, ça va. Moi, il y a quelqu'un qui me dit, un de mes amis, Martin, me dit « ça s'étire un peu à la fin ». Mais bon, là, j'imagine qu'on nitpick un petit peu parce que, rendu là, c'est quand même de la grosse qualité. Puis on dirait que les défauts paraissent plus quand c'est si bon. Laurent, justement, qui nous dit « l'un des défauts, ils avancent trop vite dans la série pour les gens qui ne connaissent pas l'univers ». Intéressant, ça. Parce qu'on avait une question tantôt de Ray Payman qui nous disait « si j'ai pas joué, est-ce que je vais comprendre quand même? » Donc, bon, il faut garder ça en tête. Écoute, Ray, il n'est jamais trop tard. Hein? Fallout 4, je pense qu'il est comme 20$ là, sur Steam et sur les différentes consoles. Donc, si jamais tu as accès à une console, ce n'est pas très demandant. Tu peux jouer à ça sur la PS4. D'ailleurs, il y a un next-gen update sur Fallout 4 là, qui est disponible présentement. Puis, dans le fond, ça monte le jeu en termes de qualité. Là. C'est du 60 frames secondes maintenant. Ils ont ajouté le support pour le ultra widescreen aussi. Donc, si vous avez un écran ultra large, là, vous allez avoir un plus beau rendu visuel. Puis, ils ont rajouté une quest aussi là, qui apparemment ne vaut pas la peine uniquement pour acheter le Next Gen Update. En fait, c'est pas vrai. Même pas besoin de l'acheter. Je crois qu'il est gratuit. Le Next Gen Update en plus. Jusqu'à maintenant, les gens se plaignent un peu. Je vous dirais que les puristes de Fallout, en fait, c'est les gens qui installent des mods parce que sur Steam, je sais que tu peux installer beaucoup de mods sur Fallout 4 puis tu peux rendre le jeu vraiment custom. Là. Il y a des centaines et des centaines de mods. Il y a une communauté très, très active sur les mods de Fallout. Donc, je vais prendre une petite gorgée de caféine ultra concentrée ici dans mon. Je vais vous le montrer à l'écran. Il est trop nice, ce verre-là. C'est du gros G-Fuel. J'ai pas l'âge pour boire ça, mais c'est pas grave. Au pire, vous me trouverez avec les lèvres bleutées, là, couché à côté de l'ordi. Fait que, ouais, fait que c'est ça. Fait que Fallout, let's go, je suis bien content. Puis, je vais sûrement continuer. peut-être même ce soir, là, on va avancer la série un peu. C'est ma fête demain. 42 belles années de vie, le 29 avril. Donc, j'ai une journée devant moi demain que je vais faire ce que je veux parce que j'ai ma journée de congé en plus. Donc, j'avais déjà prévu ça depuis longtemps. Puis quand j'ai accepté mon nouvel emploi, là, c'était déjà convenu. Donc, une journée seule à la maison, c'est rare quand même que ça arrive, ça. Fait que je vais en profiter demain. Puis, j'ai envie de réinstaller Fallout 4, OK? Parce que je l'ai déjà, ça. Donc, j'ai déjà Fallout 4. Il ne me coûte rien. Est-ce que je me rembarque? Je déteste les hosties de settlement, OK? Le côté construction, maintenance de base, ça me tente moins. Mais je l'ai déjà le jeu, donc pourquoi pas essayer avec. T'sais, moi, je n'ai pas de mod en plus, donc pourquoi pas essayer. Salut Anouk, coucou à toi également. On a David qui nous dit « J'ai recommencé Fallout 4 avec le Ultra Wide. Malheureusement, la mise à jour a scrappé le mod Fallout London. » Exact, exact. Puis c'est ce que les gens disent. Pour les gens qui trippent sur les mods, que j'ai jamais essayé en passant, apparemment que c'est en train de briser les mods, là, donc c'est un problème. Thierry qui me souhaite bonne fête, puis Ray également, merci, vous êtes gentil. Beaucoup de gens me souhaitent bonne fête d'avance depuis quelques jours, puis c'est ça. C'est moins important nos fêtes rendues à 40 ans, surtout les hommes, là, on est tannés de faire des parties pour notre fête. Là. Moi, personnellement, j'en fais plus, ça fait longtemps. On a Donald qui nous dit « Merci, c'est Chucky que je dois m'avancer, je suis en retard. » Est-ce que c'est bon, la série Chucky? Ça m'intrigue. Ça m'intrigue parce que, évidemment, c'est Brad Dourif qui reprend le rôle. Alex Vincent aussi qui joue Andy Barclay. Alex Vincent qui est celui qui joue Andy dans le premier. Donc, j'ai entendu des très bons commentaires sur la série versus les films, là, les films plus récents quand même. J'aimerais ça regarder ça. On dirait que ça m'intrigue quand même. On a Joe Nadeau qui nous dit, puis là, il veut nous parler de lutte, puis c'est le fun, Joe, que tu parles de ça, parce que je vais en parler, ben en fait, on va en parler tout de suite. Joe nous dit, Cody est champion, Roman Reigns mis de côté, McMahon flushé, oh, attention au jeu de mots, là, McMahon flushé, je vais en reparler de ça, là, dans quelques secondes. J'aimerais bien t'entendre là-dessus, retrouves-tu espoir un peu? Écoute, la réponse, non, je ne retrouve pas espoir du tout. J'ai fait une grave erreur, Joe, OK? J'ai invité mon meilleur ami Jonathan pour regarder WrestleMania 40. Il y a combien de temps, là? Ça fait deux, trois semaines. Quelle erreur! J'ai regardé, samedi soir, là, c'est rendu sur deux soirs, WrestleMania, là, au score, hostie. J'ai regardé WrestleMania soir 1, puis on a regardé tous les matchs, OK? Puis, je n'aime plus la lutte. C'est pas compliqué. Je m'en ai dit, c'est pas la faute de la lutte. Parce que, présentement, la WWE n'a jamais fait autant d'argent. Puis, il n'y a jamais eu autant de yeux sur le produit. Donc, c'est moi le problème. T'sais? Puis, d'ailleurs, Jonathan, qui était là avec moi, qui dit « Ouf, c'était pénible, Mania Day One ». C'était très pénible. Puis, Joe, il bégaye, même par écrit, Joe. Nado, check. Une Sammy était là, il voulait dire une chance, mais il manque un mot. C'était pénible à un point tel que Joe et moi, on était gênés. On était tout seuls. Ah, c'est pas vrai, non, Xavier. Si, c'est vrai. Mon pauvre enfant de 15 ans, on lui a dit, regarde WrestleMania avec nous, Xavier, The Rock qui revient. Puis c'est le premier WrestleMania de l'histoire que Vince McMahon n'est pas là. Derrière, parce que Vince, c'est un micromanager complètement sauté, là, mentalement, là, il est fini, il est brûlé à la corde depuis. Je vous dirais, depuis qu'il a acheté WCW en 2001, il est complètement pété, ce gars-là. Il a des idées de marde, puis c'est un bon gars, là. C'est un narcissique milliardaire. Anyway, c'est pas l'ami de Trump pour rien, là, disons-le. Puis on s'était dit, ah, ça va être cool, tu sais, Xav, viens regarder ça avec Joe. Puis moi, tu sais, Joe et moi, là, on se tient ensemble depuis qu'on a 13 ans. Ça va faire bientôt 30 ans que Joe et moi, on est amis, puis on se parle, c'est bizarre, mais on se parle presque à tous les jours depuis 30 ans. Il y a eu des petites pauses là, qu'on a eu des amis différents, mais ça n'a pas duré très longtemps. Puis, on a grandi en regardant les années de lutte, tu sais, 95, 96, 97, où est-ce que, moi, personnellement, j'ai eu un gros down dans les années 90. Tu sais, je vous dirais 92, 13, là, je commençais à trouver ça rough, la lutte. Depuis j'étais jeune, là, j'avais 11 ans, là, 11, 12 ans. Puis, on a recommencé à regarder ça dans le temps du Attitude Era, puis dans le temps de la WCW quand Nitro était là avec la NWO, avec Kevin Nash, puis tout le kit. Fait que là, on est devenus des fans finis à corde. Joe et moi, OK, on s'appelait chacun de chez soi au téléphone, le landline, là, le téléphone traditionnel, et on regardait Raw. En fait, c'était plus Nitro. On regardait Nitro au téléphone pendant 3 heures. On avait chacun le téléphone dans les mains, puis on commentait ce qui se passait en live, en tenant le téléphone. Puis là, on découvrait en temps réel, en se parlant au téléphone, les surprises que Eric Bischoff nous réservait. T'sais, il y en avait moins. WWF, on trouvait ça pénible quand même. Là. C'était plus du sexe, puis de la violence, puis tu sais, sexe, drugs, rock and roll, là, ça c'était WWF, là, c'était irrévérencieux, puis c'était Austin qui stun. D'ailleurs, on a quelqu'un, Intuit Film, qui nous dit Stone Cold, tant de souvenirs. C'était rough, vraiment beaucoup. Puis Nitro, par contre, il y avait des surprises à toutes les semaines. À un moment donné, Rick Martel est arrivé, c'est random, là. Rick Martel en 97, genre. Là, j'appelle Jojo, man, check ça, asti. Puis là, écoute, on était des fans. Et on a piqué, en termes de fans, là, pas mal. On est allé voir Survivor Series ensemble. On avait 15 ans au Centre Bell, au Centre Molson, dans le temps. Puis c'était pas mal notre pic. Après ça, on est devenu fans de lutte indépendante, un peu plus vieux. On a commencé à aimer ECW. Moi, je suis devenu lutteur, Joe aussi, mais il était moins actif que moi. Puis là, notre fandom a commencé à descendre. Quand Hogan est revenu en 2002 pour affronter The Rock, là, ça avait atteint son paroxysme. Là. Vraiment, on tripait bien raide. Puis à partir de 2003-2004, on a débarqué en tant que fan de lutte parce qu'on n'aimait pas où le produit s'en allait. Il n'y avait plus de réelle compétition. Vince était mongol. Il avait des idées bizarres. Il changeait d'idée aux semaines. Il n'y a rien qui se tenait. Longue histoire courte. On a lâché tout ça. Puis on s'est donné la chance plusieurs fois au fil du temps à recommencer à regarder ça. Puis, hostie qu'on est vite à oublier la douleur parce que là, j'ai vraiment fait le tour du monde pour vous dire que quand il est venu regarder WrestleMania, il avait les meilleures des intentions, moi aussi. J'ai déjà lutté contre Sami Zayn dans un main event à Valleyfield avant que Sami soit connu. Puis, lui, il affrontait Walter à WrestleMania Night 1, donc on avait hâte à ce combat-là. Mais les autres combats, le combat d'échelle, OK? Là, je vais mettre un commentaire que Joe a dit plus tôt. Xavier, qui est mon fils, a abandonné 2 fois. C'est vrai. Il est revenu donner une deuxième chance et il a tap out complètement finalement. Il était dans le sofa, mon fils, puis il regardait ça avec nous autres, puis il se disait, ouais, c'est pas évident. Puis lui, c'est pas un fan de lutte. Fait que, tu sais, on était doublement gênés, Joe et moi, de le soumettre à ça. Pauvre, il n'a rien demandé, cet ado-là. Il est super cool, mon gars, en plus. Les deux sont cool, là, mais je veux dire, il est vraiment relax, Xavier. Il s'assoit, puis il est patient, puis il donne la chance, mais c'était poche. Pauvre enfant. Et David qui dit « Ton fils devait se dire « Esti de gang de boomers ». Probablement qu'il se disait quelque chose de même. Puis c'était insupportable pour nous. Puis on a essayé, mais le match d'échelle avec des blagues, puis comment il s'appelle? R-Truth qui oublie qu'il est dans un match. Haha, c'est du cabotinage. C'est pas drôle. Les échelles molles, des dives à l'extérieur. Je pense qu'il y a eu 20 dives dans la soirée du samedi, OK? Dans la soirée du samedi, s'il n'y a pas eu 20 dives, il n'y en a pas eu pantoute. C'était ridicule. Puis moi, j'en ai parlé de ça il n'y a pas longtemps avec quelqu'un. Quelqu'un qui reçoit un dive, là, puis qui est comme ça, OK? Il regarde dans les airs, puis il attend qu'on lui saute dessus. La personne me disait, ouais, ben c'est sûr qu'il faut qu'il l'attrape, sinon il va se blesser. Oui, oui, c'est pas ça que je dis. C'est pas le fait de l'attraper le problème, c'est le fait de nous montrer sans hésiter à l'écran, à regarder à quel point on participe ensemble, tu sais. Puis quand tu regardes la lutte, moi, ce qui a fait que j'ai aimé ça, c'est qu'il faut que tu suspendes ton disbelief, OK? Donc, il faut que tu mets de côté le fait que tu le sais que c'est un spectacle, mais les lutteurs dans le ring, ont la job, ont le mandat de te convaincre que c'est vrai. Okay? Puis ça, c'est un art qui s'est perdu au fil du temps, complètement. Bret Hart, c'était le meilleur à ça. Bret Hart prenait vraiment très au sérieux sa job de lutteur professionnel, puis il était fier de représenter son sport. Puis lui, c'était un sport. Quand Bret était dans le ring, là, il n'y avait pas de joke, pas de conneries. L'idée, c'était que ça ait l'air d'un vrai combat. Puis tu sais, pensez, mettons, à WrestleMania 13, Bret Hart contre Steve Austin dans le I Quit match, ça a l'air d'une bataille, là, au point que tu es comme, t'oublies. Même encore aujourd'hui, tu regardes ça, tu sais, je dis pas que tu oublies que c'était un show de lutte, parce que les coups de poing, c'est évident, là. Mais c'est convaincant, puis c'est ça qui manque beaucoup aujourd'hui. Il manque beaucoup de vrai dans le faux. Puis, il faut avoir écouté la lutte longtemps pour comprendre un peu cette analogie-là que je fais présentement. Puis, Joe qui nous dit que c'est rendu plus des chorégraphies que des combats. Exactement, ce n'est pas des combats. On n'a pas l'impression que les gens compétitionnent pour gagner. On a l'impression que les gens compétitionnent pour nous montrer le nouveau move qu'ils ont imaginé dans leur tête. Puis qui ont, ah oui, là, je vais tourner, puis je vais te marcher sur la tête. Là, toi, tu vas sauter entre les cordes, tu vas te baisser les culottes. Là, je vais te donner une claque, là, la toune de mon père va partir. Puis là, l'autre, il va arriver en courant, il va glisser sous la première corde. Puis quand il va arriver, des feux d'artifice vont éclater. Puis le Kane, non, j'ai pas le goût de regarder ça, là. Fait que c'est ça, c'est vraiment de la merde. Puis pour ceux qui ont demandé si j'ai donné une chance à AEW, je pense que c'est toi, Dan. On a donné une chance à AEW. D'ailleurs, Joe et moi, quand on avait le podcast Histoire de tronche, on était très excités d'avoir ça parce que Tony Khan a de l'argent. Bien, en fait, son père a de l'argent. Chad, il était prêt à ramener la lutte comme c'était, qu'il disait. On était très naïfs. On avait beaucoup d'espoir en hein, les Young Bucks, Kenny Omega. Tout ça, c'est de la merde. Puis, comme Joey dit, avec le monsieur pas de jambes, il y a eu un gars... pas de jambes à AEW dans un Battle Royale, puis Joe et moi, on a décroché à partir de là. C'est pas compliqué. Salut Serge, Monsieur Lafrenière de Terreur sur le Pod, qui nous dit de l'or à WrestleMania 13, mémorable. En effet, puis la raison pourquoi c'était de l'or, Serge, c'est que les gars dans le ring prenaient leur craft, prenaient leur sport à cœur, puis leur job, c'était de nous faire oublier qu'on regardait une chorégraphie, entre guillemets, tu sais. Ça, c'est de quoi qui s'est perdu au fil du temps. De nous convaincre que ce qui se passe, c'est vrai. On a Ray qui nous demande, parlant de lutte, qu'est-ce que tu as pensé du film The Iron Claw, produit par A24? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le live présentement qui peuvent se manifester sur The Iron Claw? Je ne l'ai pas vu. C'est l'histoire d'Evan Eric. Je connais déjà l'histoire. J'ai vu les Dark Side of the Ring, entre autres. Donc, si quelqu'un a vu Iron Claw, manifestez-vous, puis donnez vos petits reviews. Je vais passer vos commentaires. On va prendre une petite gorgée de caféine. Ça a l'air très bien, Iron Claw. En fait, il y a beaucoup de budget derrière ça. C'est avec Zac Efron. Ça a l'air bien. T'sais. Moi, je n'étais pas un fan des... En fait, j'étais un Québécois, donc on n'avait pas accès à la lutte de territoire dans ce temps-là. Puis les Von Erich au Texas, c'était gigantesque. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas vu. Puis Joe, ça me surprend. Je ne sais pas si tu as vu les Iron Claw. Mais Joe Desmarais, là, qui est mon ami que je parlais tantôt, lui, c'est un gros fan de cinéma, puis il aime la lutte. Donc, en principe, lui, il l'aurait vu. David qui nous dit Seven Days to Die, as-tu vu la roadmap sortie la semaine passée? La version 1.0 sort en juin 2024. Aujourd'hui, c'est la dernière journée pour pouvoir se pogner le jeu à 7$. En juin, il va augmenter. Oui, j'ai vu que finalement, Seven Days to Die sort de Alpha, puis il s'en va en version 1 direct, 1.0. Il était temps. En même temps, je me demande qu'est-ce que ça va changer. Caro a presque 600 heures dans Seven Days to Die, ma blonde. C'est un des seuls jeux qu'elle a mis du temps. Les autres jeux, elle a joué un petit peu. Là. Mais Seven Days to Die, c'est son jeu préféré ever. Puis j'ai hâte à version 1. Puis une autre affaire que j'ai hâte, David, c'est Build 42 de Project Zomboid. Okay? Donc, s'il y a des gens dans les qui sont sur les lives, sur le live, dis-je mal, présentement, qui n'ont pas joué à Project Zomboid, c'est un jeu isométrique similaire à ce qui est derrière moi. Voyons, là. Donc, vu de haut, trois quarts. Puis, c'est, à mon avis, le meilleur jeu de zombie ever made. C'est le jeu le plus compliqué, le plus complet aussi. Mais Build 42, ça va être le premier update majeur de ce jeu-là. Il y a un autre, il y a beaucoup de commentaires. J'essaie de garder le cap. Vincino qui nous dit très bon film, même pour un non-initié. Donc, on parle ici de The Iron Claw. Ray qui nous dit j'ai adoré The Wrestler de Darren Aronofsky. Jonathan Desmarais, est-ce que tu te souviens qu'on est allé voir ce film-là ensemble au cinéma avec Mickey Rourke? C'est un de mes films préférés, ça. Facile. Ben, c'est, mettons, film préféré. Faut quasiment pas dire ça, hein, parce qu'on dirait que nos top 10 changent à mesure que le temps avance. Mais The Wrestler, c'est un film que j'ai regardé au moins 10 fois. Puis, c'est la représentation la plus authentique, je vous dirais, de c'est quoi la vie d'un lutteur indépendant. Parce que pour l'avoir fait pendant plusieurs années, moi, j'avais une job, puis tu sais, je faisais ça pour le fun, mais je côtoyais des gens que c'était, un, leur objectif de devenir lutteur professionnel ou catcheur pour nos amis transatlantiques, de l'autre côté de l'Atlantique plutôt. Donc, leur but ultime, c'était de devenir des lutteurs, des catcheurs. Puis, c'est un don de soi épouvantable. C'est dur sur le corps, c'est dur sur le mental également. Puis, il y avait des vétérans qui venaient lutter avec nous aussi, puis ils étaient maganés. Puis, la représentation de Mickey Rourke dans The Wrestler, c'est vraiment sa pine. Là. Ils ont vraiment fait... en fait, Aronofsky a vraiment fait sa recherche, puis c'est vraiment informé là, de c'est quoi l'envers de la médaille. Les gens voient les lutteurs à l'écran comme « Ah, c'est du fake, mais tu te brises le corps, tu blesses le dos, les épaules, le cou, les jambes. » T'sais, regardez Mick Foley marcher aujourd'hui. C'est sûr que Mick Foley, c'est peut-être un exemple extrême, mais la plupart des lutteurs ont des blessures sérieuses très graves. Là. La nouvelle face de Mickey Rourke a pu servir positivement. C'est-tu tragique ce qu'il a fait avec son visage, ce gars-là? Mais semblerait-il que c'est parce qu'il a été boxeur très peu longtemps. Là, il a voulu partir d'Hollywood pour devenir boxeur professionnel, puis il s'est fait défigurer rapidement. Fait qu'on se rend compte que c'est un sport pour hommes, la boxe. Hein? D'ailleurs, c'est mon sport préféré là, depuis longtemps, la boxe professionnelle. L'état de la boxe dans le monde, c'est pas fantastique. Mais il y a beaucoup de choses le fun à suivre. D'ailleurs, une petite parenthèse sur la boxe. Là. Écoutez, je ne sais pas s'il y a des amateurs de boxe dans les commentaires présentement, mais il va y avoir Arthur Beterbiev contre Dimitri Bivol. Beterbiev, qui est un Québécois d'adoption, là, qui va boxer, je crois, c'est le 18 mai. Et puis, il va aussi avoir Tyson Fury contre Alexander Usyk, je crois, le 1er juin. Puis peut-être que j'inverse les dates, là, mais deux très gros combats de boxe professionnels qui s'en viennent bientôt. Donc, Ray Payman qui dit tant mieux si tu apprécies autant, vraiment, vraiment beaucoup. C'est un très bon film de Wrestler. Puis, TSLP Serge, M. Lafrenière qui nous dit Efron offre une super performance. Dark Side of the Ring nous parle de la vraie version d'Evan Eric en parlant de The Iron Claw. Donc, c'est quelque chose qui est sur mon radar. Puis, à force d'en parler, j'ai encore plus le goût de le voir. David nous dit je suis rendu à 950 heures à 7 Days to Die. Est-ce que tu as encore du plaisir, David? Moi, il y a certains trucs qui m'emmerdent un peu avec 7 Days. Je trouve que le grind des quests, des NPC avec les marchands et tout ça, je le trouve pénible un peu. C'est souvent les mêmes... pas souvent, c'est presque tout le temps la même quest qui revient. Puis tu deviens overpowered très vite à 7 Days. Donc, je ne sais pas si tu as des mods que tu as installés, David, mais... Je suis ouvert à t'écouter si jamais c'est le cas. Qu'est-ce que j'avais d'autre que je voulais vous dire? Ah oui, c'est ça. On parlait de Fallout tantôt. On parlait de Fallout, la série télé. On parlait du jeu aussi, de Fallout 4, là, qui est comme revenu un petit peu sur le radar dernièrement. Bethesda, là, en général, okay, le studio Bethesda qui sont derrière Fallout, bien entendu, Skyrim, Starfield, plus récemment. J'ai de la misère avec Bethesda quand même. Et puis, je m'ennuie des jeux. Écoute, je pense pas que ça existe, mais mettons dans le sens propre, des double A games. Parce que on s'entend, Fallout, Skyrim, Starfield, c'est des triple A games. C'est plusieurs centaines de personnes, voire peut-être même près de 1000 qui travaillent sur ces projets-là. c'est des AAA games, donc c'est des jeux à budget énorme. C'est une compagnie publique en plus, donc ils doivent rendre la monnaie de la pièce aux investisseurs. Puis ça fait des jeux qui sont énormes, qui sont beaux, qui sont léchés, mais ça fait aussi des jeux, je trouve, qui manquent d'âme un peu. Puis c'est plus tant ma tasse de thé, ces jeux-là. T'sais, c'est comme long pour être long. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Puis Fallout 4, c'est un peu ça qui m'avait fait débarquer. T'sais. J'avais du fun, je trouvais ça cool. Avec ton Pip-Boy, puis tu peux vraiment monter tes personnages comme tu veux. Tu as beaucoup, beaucoup de customization possible. Fait que c'est cool, mais ça manque d'authenticité. C'est peut-être le bon terme. Puis les AA games, ça me manque. Okay? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Salut à toi, Vic. Un peu de retard, mais content de te revoir en live. Ben, content que tu sois là aussi, mon cher quatrième commis. Derrière Dan, évidemment, parce que Dan est là à toutes les maudites semaines. Mais bon, un commis temps partiel ou un autre. Hein? Si jamais Steve et moi, on se fait congédier par le gérant, il y a une place pour vous deux au Super Club. Donc, c'est ça. Ça me manque, les jeux AA. Okay? Donc, je parle, à titre d'exemple, Legacy of Kain, Soul Reaver. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu-là. Legacy of Kain, c'est pas un jeu que j'ai adoré tant que ça, mais c'était un jeu qui était juste assez long, avec juste assez de production values pour que ça soit le fun puis mémorable. Tu sais, Parasite Eve, un jeu de Capcom, qui est un énorme studio, mais qui était quand même à effectif réduit, qui travaillait sur Parasite Eve. Encore une fois, super bon jeu. Eternal Darkness, là j'y vais de mémoire, là. Eternal Darkness sur la GameCube. Eternal Darkness, c'est une tragédie que ce jeu-là n'a pas eu de remaster. Encore une fois, un jeu avec un plus petit studio. C'était Nintendo, mais c'était pas R&D One, là, où je me rappelle pas là, le studio principal, mais peu importe. Ça me manque, les AA games. Puis Medieval, est-ce que vous connaissez Medieval? Un jeu de PlayStation 1, encore une fois, un jeu qui n'avait pas un budget à tout rompre, mais qui avait de la personnalité et qui prenait des risques. T'sais. Maintenant, c'est beaucoup, puis Vic et moi, on en parlait il y a quelques semaines, en fait, le mois dernier. Les jeux sont aseptisés, sont énormes, sont impressionnants, mais ça manque vraiment ça, c'est ça le terme, ça manque d'authenticité, c'est juste trop gros. Intuifim qui dit Medieval, c'était cool, oui, c'est des jeux quand même qui sont oubliés, mais sur le coup, c'est des jeux qui étaient rentables parce qu'ils n'avaient pas coûté tant à produire, puis ils ont quand même laissé leur marque. Parasite Eve, c'était Squaresoft. Oui, tu as bien raison, Vic. Merci pour la correction. Mais le mix-up avec Resident Evil, c'était pas mal un Resident Evil avec des mécaniques de RPG. Oui, c'est en plein ça. En fait, le jeu que j'ai mélangé dans ma tête, Vic, c'est Dino Crisis. Puis Dino Crisis, c'était, je crois, corrige-moi si je me trompe, un jeu de Capcom qui était du survival horror, mais avec des dinosaures dans le temps, là. Puis, je trouve qu'un retour, mais tu sais, je pense pas que ça va arriver parce que dans le landscape d'aujourd'hui, d'avoir des AA games, il y a comme plus de place pour ça. Maintenant, il y a des jeux indie qui sont des studios des fois de 2-3 personnes, des fois un peu plus. Puis, il y a des AAA games. Tu sais, il y a Ubisoft, il y a Bethesda, c'est Microsoft Game Studios. C'est des studios tellement énormes que les gens n'ont pas d'espace pour être si créatifs que ça. Puis là, en plus, avec les coupures dans l'industrie du gaming, c'est d'autant plus pertinent que ces gens-là, ils travaillent avec les fesses serrées, là, vraiment dans le sens figuré, bien entendu. Là, ça. Je ne connais pas les détails de ce qui se passe dans les compagnies, mais bon. C'est ça. Fait que, tu sais, un retour au AA game, ça serait le fun. Je pense que c'est du wishful thinking de ma part, mais j'ai cette belle machine-là que je peux toujours revisiter les classiques s'il faut. Joe demande, est-ce que j'ai joué à Turbo Kid? Je n'ai pas joué à Turbo Kid. Est-ce que quelqu'un a joué à Turbo Kid, en fait? Parce que ça semble excellent. Du moins, moi, ce que j'ai vu, le trailer est écœurant. Okay? Ça a vraiment l'air nice, Turbo Kid. Mais puis, c'est de nos amis RKSS en plus. Puis, j'ai vu un post de Frank de RKSS il n'y a pas longtemps pour dire qu'il tripait bien raide. Ça doit être cool pour lui quand même de voir un de ses films adapté en jeu vidéo. Rien à voir, mais Earth of Darkness, c'était aussi une petite pépite. Est-ce que tu parles de Eternal Darkness? Earth of Darkness, ça ne me dit rien. Perso, intuitif, mais c'est peut-être moi aussi. Là. Vic, qui nous dit Haunting, starring Poltergeist dans le background. Effectivement, il est facile à reconnaître ce jeu-là, puis j'adore parce que, tu sais, le Genesis, une des limitations au Sega Genesis, c'était le nombre de couleurs à l'écran possible. Puis je trouve que Haunting avec Poltergeist, c'est un jeu super coloré quand même parce qu'ils ont choisi où est-ce qu'ils allaient mettre leurs couleurs. Puis c'est des couleurs vibrantes, là, c'est vraiment très cool. Donc non, pour te répondre à tes films, Earth of Darkness, je ne connais pas. Mais tu nous parles de Salt and Sanctuary, est génial, un Dark Souls en 2D. Ben là, tu parles au bon public, Intuit Film. Mes jeux préférés, là, puis ça fait longtemps que c'est le cas, c'est tout ce qui est l'univers de Miyazaki. Donc, je parle de From Software, bien sûr. Dark Souls 1, 2, 3. Elden Ring. Sekiro. Puis, j'ai pas joué encore à Bloodborne. Donc, mais je l'ai. Je l'ai. C'est juste que moi, je suis un PC gamer maintenant, puis Bloodborne, je l'ai sur la PS4. Puis il roule à 30 frames secondes, puis on dirait que ça me gosse. Fait que là, bon, c'est une affaire de nerd, là. Éventuellement, j'espère que From Software vont donner un peu d'amour à Bloodborne, puis ils vont faire un port sur PC, parce que je dois jouer à ce jeu-là sur PC. Puis je dois jouer à ce jeu-là, point. C'est très Lovecraftien, puis ça semble fantastique. J'ai joué peut-être une heure, là, je l'avais essayé sur la PS, puis j'avais trouvé ça bien. Mais présentement, je suis replongé dans Elden Ring. Donc, les gens qui connaissent Elden Ring savent que c'est un RPG qui est gigantesque. J'ai l'impression qu'il est un peu vide. Ça fait drôle à dire parce que la map est énorme, mais les mécaniques de combat dans Elden Ring, c'est vraiment le fun. Puis, pour les gens qui connaissent Elden Ring, présentement, je joue en easy mode. Il n'y a pas de setting de difficulté dans Elden Ring. En fait, dans aucun des From Software, c'est tout le temps c'était ultra hard là, pour quelqu'un qui n'a jamais joué. Mais easy mode dans le sens que je me fais un Colossal Knight build. Okay? Ça veut dire que je mets tous mes points dans mon vigor, mon endurance, puis ma force. Puis là, j'ai déjà 40 de strength là, pour. Je ne suis même pas level 60, puis j'ai 40 de strength. Donc, j'ai une méga, méga blade. C'est une heavy great sword. Puis tout le monde que je frappe avec ça plie les genoux devant moi puis s'excuse. Là, j'avais pas joué comme ça avec mon premier playthrough. Là. J'ai peut-être 170 heures dans Elden Ring so far. Et au mois de juin, il va y avoir le DLC qui s'appelle Shadow of the Earth Tree, qui est un DLC, okay, donc un add-on, on va dire, là, aussi gros que plusieurs jeux, point. Donc là, c'est pas juste 2-3 maps de plus. Là, ça va être apparemment presque full game size. J'ai très hâte. Fait que là, j'ai recommencé Elden Ring. J'ai beaucoup de fun, vraiment beaucoup de fun. Puis le easy mode, c'est vraiment trippant. Intuifilm qui dit c'est les seuls jeux où c'est pas ton personnage qui devient fort, mais c'est vraiment toi-même. C'est tellement ça en plus. L'expression là, dans Elden Ring puis dans tous les FromSoft, c'est get good. Okay? Il y a des gens qui se plaignent que ces jeux-là sont trop tough et sont injustes. Get good, c'est comme un running gag online depuis Dark Souls 1. Qui dit « Deviens bon si tu veux avoir du fun ». Mais écoute, là, c'est pas pour tout le monde ces expériences-là. Puis, on a quand même Vincino qui nous dit « Bloodborne, c'est le FromSoft que j'aime le moins et Sekiro, mon préféré ». Tu vois, Sekiro, j'ai joué, je l'ai sur PC, mais je l'ai pas fini. Je le trouve trop raide, ce jeu-là. Je le trouve vraiment tough. Puis Xavier, mon plus jeune présentement, est en train de le faire. Xavier a fini Dark Souls 1, 2, 3. Il y a 15 ans, man. C'est respect en maudit. Il a fini Dark Souls 1 à l'âge de 13 ans. Puis ça, c'est, man, rendu là, il n'y a plus peur de personne en gaming. Hein. Son père, c'est un ancien gars classé mondialement à Street Fighter 2 quand même, hein, je dois le dire. Je me suis classé 252e au monde, ce qui est haut, mais pas si haut que ça, parce que rendu en bas de tout ça, c'était plus jouable. Là. Je me faisais humilier, mais quand même. Puis, c'est à force de me pratiquer puis à force de grinder. Fait que j'ai instauré cette éthique de gaming-là à mes deux enfants, en fait. Là. Puis c'est des machines. Là. Thomas a platine le jeu Elden Ring. Okay? Platine, il y a eu tous les trophées au PlayStation. Ça, là, moi, j'ai pas la patience pour ça, ni le talent, je crois. Fait que... Si je prévois. OK, on a Joe qui demande si je prévois revenir sur Twitch. Ça me tente de jouer tantôt. C'est drôle que tu parles de ça. D'ailleurs, je vais en profiter pour mettre notre bannière de réseaux sociaux ici. Oups, excusez, problème de noob. On va enlever ça. Voilà. N'oubliez pas qu'on est sur Twitch. YouTube, on est sur TikTok, sur Facebook et sur Instagram. On est également sur Spotify, puis tout, Apple Podcasts, puis toutes les plateformes où est-ce que vous trouvez vos podcasts. Donc, il y a la version audio de notre show principal qui est disponible habituellement le lendemain de l'apparition de nos derniers épisodes. Je ne sais pas si les gens qui sont dans les commentaires présentement sont à jour, mais notre cinquième épisode de la deuxième saison vient tout juste d'être publié hier, en fait. On a déjà une couple de centaines de views là, en une journée, fait qu'on est bien, on est bien content de ça. Puis, là, Steve n'est pas là. Il revient de Barcelone, en fait. Et puis, Steve, dans les films en série, présentement, il est en train de regarder Children of the Bled End. 11 films. À date, là, il en parle au Superclub Vidéo Gore, il n'y en a pas un qui a de l'air à avoir trouvé bon. Imagine, il y a quoi, il y a 44, Steve, je pense, 45, je ne suis plus sûr. Là. On n'est pas, on n'a pas un gros delta, mais Steve, imaginez regarder 11 films pas bons. Rendu là, hostie, il n'y a personne qui mérite ça. Effectivement, Joe, il ne mérite pas ça, mais c'est auto-infligé. Hein? Ce n'est pas moi qui a demandé de regarder ça. Mais si vous n'êtes pas déjà abonné à nos différentes plateformes, pouvez-vous le faire, s'il vous plaît? C'est niaiseux, hein? Mais ça nous aide avec l'algorithme énormément. Là, on est comme stallé là, à 551 subscribers sur YouTube. On en a 50 seulement depuis un mois de plus. Puis, c'est peut-être parce qu'on publie moins d'extraits, peut-être parce qu'on fait moins de live, je ne sais pas vraiment, mais c'est mystérieux l'algorithme. Puis quand vous partagez, puis vous abonnez, puis vous aimez, puis vous commentez, puis ainsi de suite, ça nous aide beaucoup. T'sais, c'est organique, c'est tout petit notre projet, mais on aimerait ça qu'il y ait plus de yeux là-dessus quand même. Le souffleur de cassette qui nous dit Stellar Blade, Field Old School PS2, AA avec beaucoup de polish. Je ne connais pas Stellar Blade, merci pour la recommandation. Mon souffleur de cassette préféré. Intuifilm, Demon's Souls, tu l'as fait aussi? Jamais. Je n'ai pas de PS5. Donc, Demon's Souls Remastered est seulement disponible sur la PS5. Mais le jeu est fucking beau. Ça a l'air le fun. C'est quelque chose qui m'intrigue quand même beaucoup. Mais j'achèterai plus jamais de console. Puis d'ailleurs, ça m'amène dans peut-être le dernier sujet là, aujourd'hui. Les consoles, OK? Là, il y a quelques mois, Microsoft a abdiqué. Ils ont avoué publiquement, grave erreur à mon avis, qu'ils avaient perdu le console war. Okay? Donc, ben, le console war, la rivalité avec Sony, elle existe depuis début 2000. Mais Microsoft ont officialisé leur défaite. Ils ont dit, on n'est plus capable, on ne gagnera pas, puis on l'avoue, on capitule. Donc, qu'est-ce que ça laisse sur le marché pour les jeux de cette trempe-là? Ça laisse une console, puis ça s'appelle la PS5. J'ai dit l'année dernière sur un des lives que les consoles, ça tire à sa fin. Donc, pas demain matin, mais dans les prochaines années, une console que tu achètes avec des exclusifs, je ne crois pas qu'il va avoir de l'espace pour ça dans le marché parce qu'on est en évolution constante présentement dans le monde du gaming, dans le monde du cinéma aussi, puis dans tout ce qui est consommation de différents médias. Présentement, c'est en train de se transformer puis ça va très vite. Donc, si Microsoft se retire, ça laisse Sony pour faire une console exclusive. Mais je crois, malheureusement, que le modèle de Google Stadia, okay, qui a été un flop, en passant monumental, mais comme à un point tel que ça n'avait pas de sens, je pense que ça va être ça dans un avenir plus ou moins rapproché qui va devenir le standard dans le gaming. Donc, vous allez avoir accès à des serveurs ultra puissants avec des connexions Internet plus performantes à partir de n'importe quel device intelligent où est-ce que vous allez vous connecter sur les serveurs des compagnies puis vous allez jouer en streaming. Parce que, premièrement, le média physique, on peut dire qu'il est essentiellement mort. Là. On peut faire semblant que non parce qu'on est nostalgique et on est passionné, mais la vérité, c'est que les publishers, les first-party studios, puis les gens qui vont imprimer puis produire les jeux en masse avec les jewel case, ça leur coûte une fortune produire les jeux en média physique, puis en vendre de moins en moins. Fait que c'est une courbe inversée. Justement, hier, c'est-tu hier? hier ou avant-hier soir, j'ai passé au Carrefour Laval, puis j'ai passé devant le GameStop. Puis c'est vide. C'est vide, ben c'est vide. Avant, c'était plein, mais il y avait tant plein de monde. Là, il y avait du monde de mon âge. Puis il n'y avait pas de jeunes, ben, parce que la jeune génération n'a pas tout à fait d'attachement émotif à avoir une copie physique. Moi, je prône pour le physical media parce que sinon, il n'y a rien qui nous appartient. Puis à un moment donné, si jamais ton médium sur lequel tu roules ton jeu streamé ou que tu as acheté en version numérique décide de fermer, plier bagages, ben, tu n'as plus accès à ton jeu. Fait que j'aime mieux avoir, tu sais, être propriétaire de mes jeux ou films préférés, c'est évident. C'est juste qu'il n'y a pas d'avenir là-dedans, point de vue monétaire, avec ce qui est disponible maintenant. Tu n'as plus besoin de te présenter à minuit chez GameStop pour acheter un jeu en copie physique. Je me rappelle, dans le temps, je faisais ça avec NHL. Depuis longtemps, NHL, c'est de la merde en purée, là. Mais il fallait se présenter là, comme à la porte pour avoir les jeux le mardi, parce que ça sortait les mardis. Puis là, tu avais ta copie de jeu, il fallait tes réserves, tes précommandes, c'est name it. Maintenant, là, minuit sonne, tu as accès à ton jeu en download. Puis tu l'as sur ta console ou sur Steam. T'sais, les jeux PC, ça n'existe plus en version physique, sauf les Collector's Edition, des choses comme ça. Justement, Intuifilm nous dit « Je trouve très triste que de plus en plus, on supprime le format physique et même pour les films, d'où l'augmentation des prix. C'est comme la musique aussi. » Ben oui, mais c'est le monde dans lequel on vit. Puis, point de vue logistique, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi parce que si je me mets à la place d'un dirigeant d'entreprise qui produit des médias, je vais me dire pourquoi je paierais une fortune pour faire plaisir, entre guillemets, au sentiment de mes clients, qui sont nous, quand ça ne me donne rien de plus dans mes poches. En fait, si je fais, là, j'ai des deals avec les plateformes de streaming où est-ce que je présente mon contenu, ça ne me coûte rien en distribution, outre le licensing agreement avec les différentes plateformes et vice-versa. Puis, c'est disponible maintenant et tout le monde peut les voir. T'sais. C'est sûr que c'est logique qu'il n'y ait plus de films. T'sais, si tu passes chez Sunrise Records, allez-y bientôt en passant parce que ça achève. Eux autres, c'est sûr que c'est une hémorragie interne là, de profit, cette compagnie-là. Mais quand tu passes chez Sunrise, tu peux encore browser dans les films. Puis, je ne sais pas vous autres, mais moi, j'ai encore le petit feeling dans mon ventre quand je rentre là-dedans d'excitation de trouver quelque chose par hasard. T'sais. Ça, c'est quelque chose qui se perd avec le temps. Puis, tu sais, pour revenir à mon sujet initial, mon Dieu, j'ai fait le tour de la planète au complet. Ça achève les consoles également. Donc, tu sais, si vous avez des jeux que vous aimez vraiment, achetez-les physiques. Ça coûte la même affaire des fois. Là. Des fois, c'est moins cher en version streaming, mais l'inverse s'applique aussi. Hein. Parfois, la version physique, bizarrement, est moins chère. Achetez les jeux que vous aimez. L'année dernière, mon fils Thomas, un de ses jeux préférés de tous les temps, c'est Zelda Breath of the Wild. Puis quand Tears of the Kingdom, qui est la suite de Breath of the Wild, a sorti sur la Switch, il allait se l'acheter en version numérique. Puis j'y ai dit, tu aimes tellement ce jeu-là que tu devrais te l'acheter en copie physique. C'est le même prix. La seule différence, c'est que tu dois te déplacer puis l'acheter. Puis il a réfléchi, ben pourquoi? Pourquoi j'achèterais ça en version streaming? Ben si tu l'achètes en version physique, ce jeu-là va te suivre partout. Puis si jamais tu changes ton compte sur ta Nintendo Switch ou peu importe, là, le jeu t'appartient. C'est simple. Là. Si ta Switch est cassée, tu peux tout de suite, tu n'as pas besoin de redownloader ton jeu sur ta nouvelle, tu le mets dedans, c'est terminé, ça fonctionne. C'est aussi bien de l'acheter physique quand tu peux. David Richard qui nous dit « Sunrise Records de Saint-Bruno a fermé et réouvert 3 fois en 3 ans. » Ben ça, c'est sur le respirateur artificiel. Hein, on s'entend, c'est des modèles d'affaires qui ne font pas de sens en 2024. Puis, en tout cas, moi, si j'étais actionnaire de ça, je me poserais des sérieuses questions. Le souffle de cassette qui nous dit « Il n'y a littéralement plus d'endroits pour acheter des films en région. C'est que des copies de collection boutique qui coûtent vraiment cher. » C'est drôle, Vic, mais si tu vas chez Walmart, OK, aux États, je le sais que c'est le cas. Je ne sais pas au Canada si c'est arrivé, mais ils ont une section présentement de films en steelbook en Blu-ray. Puis, c'est vraiment pas cher. Puis, tu peux avoir de la super belle qualité. Mais, tu sais, Best Buy, ils ont arrêté ça au début de l'année. Plus de films en version physique. Il y avait des rangées de films. Mais, tu sais, ça, c'est du real estate. Là. C'est du pied carré qui sert à rien présentement. GameStop est encore en vie. Oui, Joe, tu as raison. Je suis passé, comme je disais, jeudi soir, je suis passé devant le GameStop. Puis là, c'est rendu des figurines pop, des sacs à dos. beaucoup des cossins, des bébelles, des t-shirts, des colliers, des lunettes, name it. Les jeux vidéo, malheureusement, sont en arrière-plan maintenant chez GameStop. Puis, c'est une question de mois, là. Je veux dire, t'sais, peut-être c'est 15 à 18 mois, ils perdent du cash, leur action boursière est dans la toilette, bien raide, puis c'est normal. Tu sais, ça fait pas de sens de tenir un inventaire comme ça. De plus en plus d'inventaires, les coûts augmentent constamment, mais tes ventes descendent de mois en mois, tu sais. Comment, là? C'est normal que ça chie dans le mythe. Puis, GameStop, ils ont changé de modèle d'affaires plusieurs fois. Ils ont essayé de réinventer la roue. Ils se sont embarqués dans un calice d'NFT comme des caves. Ça a chié dans le mythe aussi. Ils ne savent plus où se mettre, là, présentement, GameStop. Puis, leur hostie de philosophie de te vendre à pression des garanties prolongées, puis des abonnements, puis des game cards, puis des... J'ai juste envie d'acheter mon hostie de jeu puis m'en aller chez nous. OK? Calissez-moi patience avec vos abonnements puis vos garanties prolongées sur un disque à 30$, là. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Puis d'ailleurs, oui, on s'entend que c'est le genre de Sauron là, qui mange tout autour de lui, mais Amazon est ton ami. 24 heures livrées gratuitement si tu as Prime. Tu as pas mal tous les jeux et les films que tu veux. Intuifilm qui nous dit « J'achète encore tous mes DVD. Il y a plein de petits distributeurs qu'il faut soutenir. » Et finalement, si on regarde les vinyles, sont tout de même de retour aussi. Ben oui, certainement. C'est de retour. C'est juste que c'est plus la fontaine d'abondance que ça a déjà été. Ça a déjà été que ça, en fait. Moi, je l'ai vécu cette période-là quand je travaillais pour notre compétiteur, le Superclub Vidéotron, en 2001. Écoute, c'était là que ça se passait. Là. On commandait, puis on avait des arrivages comme au Superclub Vidéogore à toutes les semaines. On ouvrait les boîtes, on trouvait le stock dedans. Puis c'est là que ça se passait. Là. Mais si on supporte les petits puis les indépendants, c'est plus niché qu'un vrai marché où est-ce que les gens font une vie puis font du gros cash. Malheureusement, c'est le cas. Là. On ne peut pas se raconter d'histoire au contraire. Vic qui nous dit « Pas tant Walmart de ma ville, il y a juste les gros derniers releases qui viennent de sortir et rarement les Steelbooks. » J'ai une question pour vous autres. Est-ce qu'il y a encore des gens qui achètent des films à 30$ la copie qui sont les blockbusters qui viennent de sortir? À chaque fois que je croise ça au Walmart ou autre, ben presque juste au Walmart maintenant, je regarde le price tag de 30$ puis je me dis « Ça fait aucun sens. » d'acheter Marvel Infinity War, patente Avengers, whatever, à 30$. Pourquoi? Tu sais, Blu-ray, un des problèmes du média, je trouve, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de special features. Tu sais, avant, il y avait des menus interactifs, il y avait des making-of, il y avait des deleted scenes, des entrevues. Tu sais, DVD, ça a été bon pour ça. Le Blu-ray, je trouve, à moins d'acheter vraiment des éditions spéciales, là, comme, mettons... Army of Darkness puis Evil Dead, là, il y en a des très bons Blu-ray avec des extras. Mais un bon exemple de ça, c'est Nightmare on Elm Street. Nightmare on Elm Street, il y a un coffret, on va appeler ça un coffret, le Blu-ray. Il y a fuck all. Il y a fuck all là-dedans. Les films ne sont même pas restaurés. C'est pas fameux, sérieusement. Il n'y a pas vraiment d'extra, à part ce qui existait déjà dans le temps. Puis on dirait que c'est juste pitché. Tu as des genres de menus. Des menus contextuels de chaque film avec une image de Robert Englund, de Freddy, qui est jamais la bonne image avec le bon film. Il y a un gros manque d'effort dans ces affaires-là, je trouve. David Richard qui nous dit le Mercado à Brassard, il vend ses films 4K 25$, Blu-ray 20$, pas de taxes. Hey, c'est bien ça. On a le marché aux puces à Saint-Eustache aussi, qui est juste à côté de chez moi. D'ailleurs, j'ai le goût d'y aller aujourd'hui. Je vais y aller aujourd'hui, Asti. Hein? C'est-tu quoi? Je suis inspiré, là, ça me tente. Le marché aux puces Saint-Eustache, tu peux vraiment trouver du très bon stock. Excusez-moi, je me suis quasiment donné un coup de micro. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai trouvé ça au marché aux puces, OK? Ça a l'air de rien, OK? C'est un jeu random Spider-Man Shattered Dimensions, OK? Je ne sais pas si vous connaissez ça. Mais c'est un jeu 3D de Spider-Man sur la Xbox 360. J'ai payé ça. Le gars demandait 5$, puis je l'ai dealé à 3 parce que j'y avais acheté d'autres choses. Ce jeu-là se vend à peu près 100$ sur Marketplace présentement. Ça arrive plus souvent, ces affaires-là. Mais je ne vais pas jouer, là. Je veux dire, j'ai Spider-Man Remastered sur Steam présentement, puis je n'ai pas besoin. J'ai pas besoin de jouer à celui-là qui semble bien, mais sans plus. Fait que les marchés aux puces, pour ceux qui veulent acheter et revendre, des fois, ça vaut encore la peine. Mais ceux qui veulent juste acheter pour acheter, Donald, d'ailleurs, je sais que tu es un collectionneur aussi, ça vaut la peine. Le marché aux puces Saint-Eustache, il y a du stock à perte de vue. Puis, c'est une institution à Saint-Eustache. Le marché aux puces, c'est pareil comme il y a 40 ans. Les murs là, en tôle orange et blanche, avec les écrans de cinéparc qui sont pareils, le resto de concession qui sent la sauce à poutine depuis 1981 à peu près. Allez faire un tour au marché aux puces, là, vraiment, ça vaut la peine. Intuivine nous dit Vermine, sorti récemment de Sébastien Vanitschek, je mets volontiers le prix aussi. Sébastien Vanitschek, entre autres, va chapeauter un spin-off d'Evil Dead très bientôt. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire. Je n'ai pas vu Vermine encore, mais je sais qu'il est maintenant sur Shudder. Donc, c'est sur ma liste. J'ai eu des super bons commentaires de Vermine. Sinon, David nous dit « J'aimerais une édition de Nightmare on Elm Street comme le coffret de Friday the 13th. Je me demande si Shout Factory est sur le projet. » Ça, là, j'achète ça sans hésiter. Nightmare on Elm Street, là, c'est la franchise pour laquelle j'ai le plus de nostalgie. Freddy a bercé mon enfance. Très drôle de phrase à dire, mais c'est ça, pareil. Un coffret définitif de Nightmare on Elm Street, 160, 280, 300 piastres, je ne sais pas combien ils vont demander. Ben, remarque, c'est juste 7 films. Ils vont peut-être mettre Freddy vs. Jason là-dedans, je ne sais pas. Moi, je le considère comme un film de Nightmare on Elm Street, Freddy vs. Jason, mais même s'il est 200 piastres le coffret, je l'achète. Parce que Shout Factory, ce qu'ils ont fait avec Friday the 13th, je n'ai pas acheté le coffret parce que je suis un fan aussi, mais pas de tous les films de Friday. Il y en a que je déteste, là, vraiment, à cause de la censure, entre autres. J'ai adoré, le Form Factor, là, il est gros de même, le coffret, là, c'est gigantesque. Puis, s'ils peuvent faire de quoi avec Nightmare comme ça, puis surtout faire la restauration, parce que si, je ne sais pas dernièrement si vous avez regardé Nightmare on Elm Street 3, mais la plus belle version, malheureusement, c'est celle dans le coffret cheap en Blu-ray qui a sorti il y a peut-être 10 ans, un peu plus que 10 ans même. Puis, il y a un grain dans l'image, il y a comme une saleté à l'image, puis c'est fatigant, tu sais, sur les... On le voit clairement sur les noirs dans le film. Quand il fait noir, là, on voit vraiment beaucoup de statique. Puis c'est fatigant. Puis ce film-là mérite une restauration complète là, en 4K. Là, vraiment beaucoup. Tu as les lunettes 3D Analglyph, ça, c'est une nouvelle affaire. C'est une autre catégorie, ça. De Freddy's Dead. Ben, c'est cool, ça, Julien. Moi, j'ai derrière moi... Qu'est-ce que c'est ça? Derrière moi ici, j'ai un film de Vendredi 13 3D, la troisième partie, puis on ne le voit pas, mais j'ai des lunettes 3D avec aussi. Puis c'est les mêmes lunettes, le rouge et bleu, qui fonctionnent avec Nightmare aussi. Vic nous dit « Shout aurait travaillé sur de quoi et la plug aurait été tirée selon une source. » Ah, maudite merde, d'après un YouTuber que j'ai vu, dont je ne me rappelle pas le nom. C'est de valeur, ça, parce que c'est un problème de studio. Là, je pense que c'est un mix de New Line puis d'autres studios là, qui s'arrachent les droits là-dessus. Puis je pense que le Craven Estate a soit vendu ou c'est à vendre. C'est-tu Elijah Wood qui était dans les discussions? Là, ou en tout cas, je ne sais pas qui a racheté les droits sur Nightmare, mais il serait vraiment temps qu'il fasse de quoi avec ça. Je pense qu'on a tous hâte là, de le voir, là, vraiment. Donc, c'est pas mal ça pour le live d'aujourd'hui. Là, il y a encore plein de monde. Écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, des choses que vous avez envie qu'on jase, là, allez-y. Je vais mettre vos commentaires à l'écran tout de suite. Mais sinon, moi, ça va être mon dimanche qui continue aujourd'hui. Oh! On a Joe qui dit « Jason Goes to Hell, c'est un des meilleurs films avec Freddy. » J'ai de la misère à comprendre le ton de ton commentaire, Joe. Je l'aime pas vraiment, ce film-là. Moi, Jason Goes to Hell, il y a quelques trucs que je trouve sympathiques, mais sinon, Steve serait pas content. Moi, je le trouve pas fameux, ce film-là. Il est spécial. Oui, je sais qu'on voit sa main à la fin, Joe, comme tu dis, parce qu'il récupère le masque, mais c'est pas un des meilleurs films avec Freddy. Là, comment, là, il y en a eu des très bons Nightmares, là, quand même. Intuifim demande « Connais-tu l'histoire des Nike Freddy Krueger qui ont sorti à l'époque sans dire à la Warner, si je ne me trompe pas? » Et du coup, ils ont dû retirer tous les stocks et c'est très recherché. Oui, je les ai vus, ces souliers-là. Ils sont très, très nice. Je trippe sur les souliers de qualité. D'ailleurs, j'en ai des très beaux présentement, des Nike que j'ai achetés. Mais je ne suis pas un collectionneur de chaussures, mais quelqu'un qui adore ça. Vraiment, je les ai vus, puis ils ont de la gueule en maudit. Puis je suis un sucker pour ces affaires-là. J'ai acheté le G Fuel pour le Shaker Cup, qui est en métal en passant. Il n'est plus disponible. Là. Mais juste parce que j'ai vu les couleurs de Nightmare, j'ai sauté là-dessus comme un fauve. Le souple de cassette qui nous dit tu vois la main de Freddy, mais il perd une de ses griffes. Ils n'ont même pas badré de retourner la scène. Ben, c'est un peu ça. Hein? C'est quelque chose qui vaut ce que ça vaut. Je trouve que c'est une bonne idée qu'ils ont eue, là, le truc de possession dans Jason Goes to Hell, mais l'exécution est bâclée. Je trouve ça cool aussi que le Necronomicon qui fait son apparition, son petit Easter egg là, pour les fans d'Evil Dead là-dedans. Mais écoute, c'est pas un film que je réécoute. Moi, ce que je regarde, en fait, de Friday, ce que je revisite souvent, c'est Part 6. Part 6, qui est mon préféré, qui est réalisé par Tom McLaughlin. Ça, c'est un bon film d'horreur. Ça, c'est exactement la saveur d'horreur que j'aime. Un soundtrack débile, des kills vraiment super. Je trouve que CJ Graham, qui joue Jason dans le 6, c'est mon Jason préféré, contrairement à bien du monde qui aime Kane Hodder. Je trouve que que CJ Graham joue un Jason très convaincant, très, très convaincant et imposant. Mais il n'est pas trop bof. Il a l'air d'un zombie. Là. Il a l'air d'un gars qui revient à la vie après avoir pourri sous terre. Et The Man Behind the Mask, qui est dans ma playlist, qui joue souvent dans mon auto. Vic, qui nous dit que c'est le meilleur des Friday. À mon avis, c'est le meilleur des Friday. Le reste est vraiment plus loin derrière. J'aime le 4 aussi beaucoup, avec Corey Feldman. D'ailleurs, Corey Feldman, si vous voulez voir... La déchéance d'un ancien child star, là. Ouh, vous allez voir ses dernières performances live, là, parce qu'il est comme dans un band avec ses compositions originales. Il a pas l'air tout droit dans le coffre à outils, mettons. On dirait que les clous ils ont changé de compartiment une couple de fois. Là. Fait que vous irez voir ça, Corey Feldman, ça a pas l'air. Puis il se teint les cheveux comme noir charbon. Là. Fait que c'est weird. C'est weird à voir. Puis il est très étrange sur scène. Il pète des coches à son band. Puis ouais. Mais bon, Corey Feldman dans Friday 4 puis dans les Goonies, évidemment, il est légendaire, pour ne pas dire un autre terme. Je vais lire un dernier commentaire, puis je vais vous quitter par la suite. On a David qui dit « Le remake de Friday the 13th avait été détruit à la sortie. J'ai réécouté dernièrement. C'est beaucoup moins pire que dans mes souvenirs. En fait, ce film-là est bon. C'est-tu Platinum Dunes qui avait produit ça? Je me souviens pas, mais moi, je l'ai aimé, ce film-là. Friday 2009, je crois. Il est bon. Il est vraiment bon. Puis, tu sais, Jason, c'est pas un zombie là-dedans, je crois. Je crois que c'est plutôt un gars déformé là, qui vit en forêt. Ils ont joué un petit peu avec le lore de Friday, mais moi, ça, je l'accepte. Puis, il est vraiment très imposant dans ce film-là. Donc, oui, c'est un film à revoir là, pour les fans de la franchise. D'ailleurs, il est-tu dans le coffret, celui-là, de Shout Factory? Je ne le sais pas. Mais dans la version, dans le mini coffret Blu-ray que j'ai ici, il ne l'est pas. Donc, chers clients, merci d'avoir été là cette semaine. Vous avez été très nombreux, beaucoup d'interactions. Là, je suis bien content. Puis, les lives devraient recommencer quasi régulièrement. Ça va être les dimanches après l'épisode. Donc, on publie nos épisodes aux deux semaines maintenant. C'est beaucoup de travail quand même, là. Surtout pour Steve, je dois dire, là, pour le montage et ainsi de suite. Donc, merci à toi, IntuiFilm, d'avoir interagi. C'est beaucoup de montage, beaucoup de travail, puis on a des jobs, puis on a des affaires. Il ne faut pas que ça devienne lourd, ce projet-là. Il faut que ça soit agréable. Donc, on fait ça aux deux semaines. Ça nous convient. J'espère que ça vous convient également. N'oubliez pas de partager tout ce qu'on fait. Je les ai nommés tantôt, mais c'est super important pour nous. Puis, si vous voulez me rendre un gros, gros service, là, allez nous mettre un 5-star review sur les plateformes audio de votre choix, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, puis un recommend sur Facebook. Ça nous aide énormément. C'est des détails, mais quand les gens browsent, on apparaît plus quand on a des bons commentaires. Hein, ça nous aide énormément. Fait qu'un petit review sur notre page Facebook, je vous en dois une, chers clients. Vos frais de retard vont être retirés de votre compte si vous faites ça pour moi. Et sur ça, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Le prochain épisode est le 10 mai. Le 10 mai, ça va être le sixième épisode de la deuxième saison. Puis, on va avoir une annonce pour vous au courant du mois de mai pour quelque chose qui s'en vient cet été qui est énorme pour le Super Club Vidéo Gore. Donc, encore une fois, je vous dis merci et à très bientôt.